Bonjour chers auditeurs et bienvenue ce mercredi 2 avril. C'est léger boulet d'avril, il pleut dehors, je suis arrivée complètement saucée, une horreur. Je suis en compagnie de Léonie qui nous accompagne aujourd'hui avec ses cheveux dénoués. Voilà, aujourd'hui elle nous a fait la crinière de lionne sous la pluie. Donc voilà, c'est une belle matinée, on est en entretien ce matin pour cette matinale et on est en entretien avec Jean-Marie Lebrun. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Jean-Marie, vous allez... Attendez, je vous mets juste le petit micro, un peu plus visible. Voilà, il faut bien parler dans le micro. Voilà. Jean-Marie Lebrun. Alors Lebrun, c'est le nom qu'on connaît, parce qu'on a reçu au moins deux, trois fois Martine qui est venue nous parler, Martine Lebrun qui est venue nous parler de la Margelle et surtout des cafés Margelle. Mais aujourd'hui, Jean-Marie, on vous reçoit pour nous parler d'un tout autre univers. C'est le cimetière protestant de Montpellier et plus particulièrement le tombeau de Frédéric Bazille.
Exactement. Donc, tombeau de Bazille, oui, ça évoque un nom pour tous les Montpelliérains. C'est ce fameux grand peintre pré-impressionniste, bien connu. Mais pourquoi je m'en soucie, ce n'est pas du tout au niveau de l'art et du musée Fabre ou autre chose. C'est pour le cimetière protestant. Le cimetière protestant de Montpellier, bon, c'est une vieille institution qui est souvent méconnue des Montpelliérains eux-mêmes. Et notre drapeau dans ce cimetière protestant, notre phare, c'est le tombeau de Frédéric Bazille, un monument tout à fait exceptionnel, assez grandiose, et qui a été un des premiers à être installé dans ce cimetière, mais qui, malheureusement, a subi les dégâts du temps, et il est grand temps de le faire restaurer.
Il y a combien d'emplacements sur ce cimetière, qui est placé où déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, ce cimetière est en plein centre-ville, donc c'est tout à fait exceptionnel aussi. Il est à deux pas de la gare Saint-Roch, près de la place Carnot, l'arrêt du tram 3. Il fait 1,5 hectare et il y a 1500 concessions dans ce cimetière. Donc c'est un cimetière encore en activité. La plupart des gens pensent que c'est un vieux cimetière historique. Alors effectivement, il l'est. C'est le plus ancien cimetière protestant, cimetière de Montpellier, encore en activité aujourd'hui. Nous avons 5 ans d'avance sur le fameux cimetière Saint-Lazare.
D'accord. Il y a, à part Bazille, il y a Jeanne Galzy, c'est ça ? Il y a d'autres noms
Jeanne Galzy, le Major Flandre, de très nombreux étrangers très connus, de très nombreux pasteurs, de très nombreux recteurs d'université. C'est notre patrimoine.
J'y suis jamais allée, Jean-Marie, moi. C'est un lieu... agréable, enfin c'est agréable comme peut l'être un cimetière. Enfin, je pense par exemple, moi je suis parisienne, le Père Lachaise, on va s'y promener par plaisir. Est-ce que c'est aussi un lieu comme ça de calme, de repos
et Alors,
de...
nous sommes effectivement un petit Père Lachaise, plus petit en hectares, mais largement aussi important pour la renommée des personnes qui sont inhumées depuis maintenant des années 1800, puisque le cimetière a été ouvert juste après le Concorde de Napoléon, donc les premières 10 années de 1800. Et c'est notre mémoire, c'est notre patrimoine. Alors à la fois un patrimoine historique, tout à fait historique, non confessionnel, et aussi un patrimoine protestant très important.
Les grandes familles, les Lénard, tout ça, ils
Alors,
y sont
voilà,
par exemple
voilà, on a une foule de tombes, Lénard, Casalis, Castelnau, etc., etc. D'autant qu'en plus, toutes ces familles se sont mariées entre elles. Donc voilà, ils occupent une grande partie du terrain. Mais il y a aussi des tombes très, très simples. Il y a des tombes de gens inconnus. Il y a des tombes, énormément de tombes d'étrangers qui sont venus justement au début du 19e siècle se faire soigner de ce qu'on appelait à l'époque la phtisie, donc la tuberculose. Et on venait à Montpellier parce que la région était connue pour soigner ce genre de maladie. Elle était propice à la cure de cette maladie, beaucoup plus que la Côte d'Azur, qui n'était pas connue à cette époque-là pour cela. Et également pour la renommée de la faculté de médecine.
Bien sûr.
Alors pourquoi il y a autant de tombes de gens morts de la phtisie à Montpellier ? Déjà, on ne sait pas combien il y en a qui en sont repartis vivants. Et puis ensuite, la faculté quand même se défend en disant « Non, ce n'est pas nous qui sommes fautifs, ce sont eux qui sont arrivés trop tard. »
Bien sûr, voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est une maladie dont on ne parle plus, la maladie de la dame aux camélias, quand même. Voilà, c'était dans les années 1800, c'était la grande maladie qui... qui a décimé ça et la petite vérole, hein, on n'en parle plus, mais enfin, voilà. Il y en a pas mal qui sont morts. Alors, de la petite vérole aussi.
La phtisie était quand même plus romantique que la petite que la vérole. Voilà. Alors ça, ce sont des choses qu'on évoque au moment des Journées du patrimoine, où on propose plusieurs visites guidées, et la plupart des gens qui viennent à ces visites sont un peu époustouflés de tout ce qu'il y a dans ce cimetière.
C'est une question d'ailleurs que je me posais, parce que bon, pour les auditeurs qui ne sont pas protestants, il y en a quand même beaucoup. Moi, il y a une chose que j'ai découvert quand je suis rentrée dans un temple pour la première fois, c'est la simplicité et la modestie du décorum protestant par rapport à l'Église catholique, enfin à la religion catholique qui peut des fois être très surchargée. Est-ce qu'il y a la même chose pour les tombes, par exemple? Parce que les cimetières catholiques, il y a même les anciens, des petits mausolées, est-ce que c'est aussi plus sobre?
Alors, c'est plus sobre. Sobre au départ, c'est-à-dire les tombes les plus anciennes, ce sont des dalles, simplement des dalles posées sur le gazon, avec parfois une inscription et parfois pas d'inscription même, ou une petite plaque très 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 légère. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la société, le cimetière a suivi aussi cette évolution. Donc sont apparues des tombes un peu plus compliquées, un peu plus imposantes. Mais la majorité de nos tombes sont encore très proches du départ. C'est-à-dire sont des pierres du calcaire bleu, on appelle, un calcaire très résistant qui ne se fend pas, qui grise avec le temps, mais qui, dès qu'elles sont poncées, redeviennent tout à fait neuves, ont une apparence de pierre neuve. Donc la majorité des tombes sont faites avec ces pierres-là, et on essaye, ce qui n'a pas été le cas pendant les années précédentes, il y a des dizaines d'années, on essaye d'encourager les personnes qui viennent acheter une concession de garder ces pierres tombales très simples et de les faire simplement poncer et regraver à leur nom ou au nom de leur famille. On essaye que le cimetière est maintenant, enfin, garde son unité ou retrouve un peu son unité de départ en évitant les mausolées un peu kitsch qui se font de temps en temps malheureusement dans les cimetières.
Il y a une chose qui se passe en ce moment dans les cimetières, il y a des jeunes, souvent des jeunes, qui s'investissent dans la rénovation des cimetières, c'est-à-dire qui ne connaissent pas, c'est des jeunes bénévoles d'un village, qui voyant la déshérence de certaines tombes, eh ben, les nettoient, les refleurissent, les réarrangent. Là-bas, qui est-ce qui s'occupe? Est-ce qu'il y a un salarié qui s'occupe de ça? Qui s'occupe de la tenue du cimetière au quotidien?
Alors, il y a un salarié, effectivement. Donc, comment marche le cimetière? Bon, le cimetière appartient à l'Église. Et donc, c'est une commission de l'Église qui gère ce cimetière. Cette commission, c'est 7 bénévoles. Heureusement pour l'Église, sinon ce serait un gouffre. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'à un moment où on l'avait proposé à la ville a refusé de le prendre parce qu'au niveau fonctionnement, ce serait un gouffre énorme pour eux. Donc c'est une commission de bénévoles qui s'en occupe, qui gère au quotidien. Et on a un salarié qui est gardien et jardinier. Et ce gardien et jardinier, gardien parce que c'est un rôle important dans un cimetière, c'est pas simplement concierge, c'est aussi surveillance de tous les travaux d'inhumation, d'exhumation, etc. C'est un travail important et c'est vraiment la base de notre travail à nous, les bénévoles qui venons après. Également jardinier, on aime bien lui garder ce titre de jardinier parce que c'est une personne qui a une formation en horticulture, arboriculture et qui s'occupe de ce cimetière comme si c'était son propre jardin. Alors vous parliez tout à l'heure de, ben voilà, c'est pas connu, c'est en centre-ville, comment ça se passe, est-ce que les gens y vont? Oui, c'est aussi un parc pour le quartier, c'est-à-dire surtout l'été, on a énormément de gens des rues voisines qui viennent, qui s'assoient sur une tombe, qui papotent, qui tricotent, qui se promènent. C'est vraiment leur endroit de promenade. Et c'est vrai qu'actuellement, avec les efforts faits ces dernières années, il est vraiment joli à voir. Il est très vert, très fleuri, on a une centaine d'arbres, des très grands arbres. Oui, voilà, c'est un parc.
C'est un bel espace. Et comment vous, Jean-Marie Lebrun, vous en êtes venu à vous intéresser ou avoir envie de vous investir? Donc vous faites partie des 7 bénévoles, c'est ça?
Voilà, je fais partie des 7 bénévoles et j'ai le grand plaisir de les diriger. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Mais je trouve que le titre de président, des fois, c'est bien aussi.
Oui, bon, voilà.
Mais je sais aussi la légèreté tout ça, voilà. Et l'investissement personnel que ça représente. Oui, alors Jean-Marie, comment vous en êtes venu
alors,
vous intéresser
moi personnellement, je suis protestant, je suis engagé dans pas mal de services de la paroisse, notamment à la Margelle, la Paillade. Et ce cimetière-là, ben, au début de mon arrivée à Montpellier, c'est il y a plus de 20 ans maintenant, je voulais à tout prix le connaître, le voir, parce que c'était, pour moi, c'était surprenant par rapport aux autres cimetières que j'ai vus au cours de ma vie. Et puis, bon, un jour, je l'ai visité, effectivement. Le gardien jardinier, qui est le même que maintenant, à cette époque, nous a reçus vraiment d'une façon très chaleureuse et nous a expliqué beaucoup de choses, nous a tenu la jambe pendant plus d'une heure pour nous dire son contentement d'être là et de faire ce travail. Et là, on s'est dit, ah, il y a quelque chose quand même dans cet endroit-là. Et puis, à un moment donné, mon épouse a eu le... Pas l'obligation, mais le désir et la volonté de faire rapatrier les restes d'un bébé mort, pratiquement mort-né, mort très jeune, et dont la concession où elle était dans l'Allier venait à expiration. Donc nous nous sommes dit, ben voilà, c'est une bonne occasion. Nous avons acheté notre propre concession dans ce cimetière, nous y avons déposé ces petits restes, et ben voilà, c'est l'endroit qui nous accueillera, moi et mon épouse, d'ici quelque temps.
Il y a quelque chose un engagement sentimental quand on est dans quand on s'investit dans une association qui parle de nos disparus, de notre histoire. C'est on a tous visité des tombes de village avec justement, vous parlez de petites tombes, de petites cimetières, de petits endroits où on voit où les plaques, on voit que c'est des jeunes enfants ou des adolescents ou même des plaques récentes où on voit que ce sont des jeunes qui des fois disparaissent dans un accident de voiture, une moto. Enfin, c'est des histoires comme ça. C'est chargé beaucoup d'émotions quand même de s'occuper d'un cimetière.
Oui, c'est chargé d'émotions, mais le fait de s'en occuper, d'y être assez souvent, etc., de recevoir les familles, d'être au cœur de la vie du cimetière, fait que cette émotion est quand même régulée et que, est-ce qu'il n'y a pas à la fin une certaine philosophie, une façon d'être au milieu de ces choses-là, au milieu des gens qui y viennent et qui permettent d'être relativement serein. Alors, je ne fais pas ça, je ne m'occupe pas de ce cimetière pour ma cure psychanalytique.
Oui, bien sûr, on n'a pas cela.
Mais je veux dire, c'est une chose importante. Alors, pourquoi j'ai accepté de m'en occuper aussi? C'est à une époque où la personne qui me précédait est tombée malade et décédée assez rapidement. Et bon, il y avait cette occasion qui se présentait. Et pour moi, c'était une façon de continuer mon service vers l'Église, en gardant une part de pratique, vraiment une pratique quotidienne et non pas simplement un travail de ménage et l'investissement intello, je ne sais quoi. Donc ça m'a paru très intéressant. Et puis, comme vous le disiez, il y a ce travail de mémoire, il n'y a pas que l'émotion et le sentiment. C'est vraiment entretenir quelque chose. Dans un cimetière municipal ou départemental, la personne qui s'en occupe s'appelle conservateur. Donc c'est comme dans un musée. Et effectivement, alors nous, on n'a pas droit à ce titre, puisqu'on est des petits privés. Mais on fait exactement le même travail, et on est là pour effectivement conserver, c'est-à-dire conserver les restes de toutes les personnes enterrées, et ça au fil du temps, et conserver la mémoire de la ville, la mémoire de notre église sur place,
de l'histoire. C'est très, très important. Avec Léonie, qui est derrière la vitre, il n'y a pas longtemps, on a fait une animation en primaire, avec Michel Miaille. Avec son jeu Cité Cap ou Capacité, je ne sais jamais dans quel sens on le dit, mais je crois que c'est Cité Cap. Et donc, c'est un jeu où les enfants ont des maisons, des terrains et un cimetière. Et ils inventent leur ville. Voilà. Et pour mettre où est la mosquée. Et après, Miaille leur demande est-ce que tu peux rentrer voilée? Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est sur la sensibilisation à la laïcité. On l'avait fait dans un quartier que vous connaissez, à l'école Heidelberg à la Paillade. Et justement, le cimetière, les enfants. Alors, il y en avait qui le mettaient carrément en plein milieu du village. Alors, Michel leur disait, mais t'en vois souvent au milieu du village ou pas? Mais c'était quelque chose de très abstrait, en définitive. Aujourd'hui, on a un rapport tous, c'est pas très gai comme thème, mais on a quand même un rapport avec la mort extrêmement différent de nos ancêtres. L'importance de donner, de visibiliser le cimetière et que celui-là soit en centre-ville, c'est important pour vous?
C'est très important. C'est très important. Bon, on constate aussi que bon, parmi les visiteurs du cimetière, il y a très très peu d'enfants. Mmh. Aux journées du patrimoine, sur une centaine de personnes, il y a 3-4 enfants, pas plus. Pourquoi ? Ben, c'est normal. Maintenant, les familles sont plus éclatées. Les enfants n'habitent pas au lieu des parents. Les petits-enfants encore moins. Alors, à part au moment de l'enterrement où le petit enfant, le petit garçon, la petite fille vient et puis met son petit papier, au revoir mamie ou au revoir papy avec une fleur. Autrement, non, c'est fini. Il n'y a plus cette visite des cimetières comme il y avait il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années au moment de la Toussaint où tout le monde venait en famille pour justement sur la tombe du grand-père, de la grand-mère, etc. Ça, c'est fini. Et en plus, notre société cache la mort. Et maintenant, on meurt à l'hôpital. Après, on ne nous voit plus. On est dans un fourgon qui vous transporte de ci, de là. Et puis voilà, et soit on est incinéré, soit on est inhumé très rapidement. Donc, c'est des choses qui se perdent, mais c'est des choses qui sont à transmettre maintenant, à expliquer, parce qu'effectivement, la perte totale de la mémoire, ben, voilà, c'est une catastrophe pour chacun.
On va marquer une pause musicale avec Debussy, Debussy qui va nous emmener tout naturellement chez les impressionnistes et chez Frédéric Bazille pour que vous nous parliez de l'histoire de ce tombeau qui est en rénovation. À tout de suite. Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans cette matinale, dans cet entretien de la matinale avec Jean-Marie Lebrun, pardon, excusez-moi, et accompagné bien sûr de Léonie à la technique. Léonie et sa coiffure de lionne du matin. On va continuer, on va parler maintenant de, non pas de lionne, mais de Frédéric Bazille. Frédéric Bazille, puisque l'action maintenant qu'on a parlé longtemps du cimetière et qu'on a un peu placer le lieu. J'aimerais qu'on s'attarde sur ce tombeau et pourquoi et comment vous est venue l'idée et l'envie de rénover ce tombeau.
Alors, c'est une envie toute qui vient dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous sommes là pour la conservation de l'histoire, la conservation des restes des personnes qui sont enterrées, et donc la conservation aussi des tombes et des monuments qui nous revient pour celles qui appartiennent à l'Église et qui revient aux familles pour celles qui sont encore en concession active. Alors, le tombeau de Frédéric Bazzi, pour nous, c'est très important parce que c'est le monument le plus important du cimetière. Il est très près de l'entrée, donc il date aussi du tout début de ce cimetière-là. Ensuite, c'est le tombeau d'un grand peintre.
Bazzi, c'est le domaine de Méric.
Rue Jean Moulin maintenant.
Jean Moulin. Voilà. Évidemment, c'est ces tableaux qu'on connaît peints devant Méric ou cette jeune servante qui est avec le village de, je crois,
Saint-Clément.
Saint-Clément derrière. Oui. Bien sûr, on connaît son œuvre. On sait qu'il est mort très jeune, juste au début de la guerre.
Alors voilà le gros problème, mais qui est aussi la suite de l'histoire et l'empreinte de l'histoire chez nous. Ce tombeau n'est pas le tombeau du peintre Frédéric Bazzi. C'est le tombeau du soldat Frédéric Bazzi. La statuaire qui est sur ce caveau familial, c'est le caveau de la famille, la statuaire qui a été installée n'est pas à la gloire du peintre du tout, mais à la gloire du soldat tombé très jeune au tout début de la guerre de 70. Normalement, vu son pédigree, les familles, etc., il ne devait pas aller à cette guerre, mais il a voulu s'engager comme patriote. Et c'est ce geste qui a été reconnu par la suite et qui a fait la notoriété de Bazzi. Parce que le peintre Bazzi, effectivement, il s'était frotté à la peinture, à la sculpture, etc., aux Beaux-Arts à Montpellier, mais pratiquement en cachette de sa famille. Il était destiné à être médecin, comme tous les grands des grandes familles de Montpellier à l'époque, bien entendu. Mais lui, ça ne lui plaisait pas, il préférait l'art, et donc il a commencé les cours du soir au musée des Beaux-Arts, qui était l'école des Beaux-Arts de Montpellier.
Quand il est à Paris, il y a un tableau très connu dans l'atelier de Frédéric Bazzi, où il y a dedans, je crois, Monet tout jeune,
voilà, ils sont tous là. Tout un rassemblement de peintres et d'écrivains.
Et c'est vrai qu'il a beaucoup aidé, à cette époque-là, Monet est très jeune, Renoir aussi, enfin, on sait que Renoir était vraiment très très pauvre, et il a commencé à avoir de l'argent à la fin de sa vie. Mais Bazzi, vu qu'il venait quand même d'une famille bourgeoise, les a beaucoup aidés, comme Caillebotte après, voilà, il y a toujours eu dans l'histoire d'impressionniste quelques peintres, ou Pasquin, après Pasquin c'est plutôt les 1920, mais il y a toujours eu quelques peintres qui étaient un peu plus riches, enfin voilà, qui avaient un peu plus de sous que les autres et qui les aidaient. Et Bazzi était aussi très aimé par un caractère, à chaque fois qu'il y a des témoignages des peintres amis de cette époque-là, comme quelqu'un de très agréable, de très bon. Voilà. Et cet engagement pour partir à la guerre, ça a été le début, je dirais, lui et Desnos, voilà, c'est ces gens qui sont morts en début de guerre et qui, Desnos c'est plus tard, c'est la guerre de 39, mais voilà, qui acte d'une violence qui rentre dans la vie des artistes.
Voilà. Alors bon, il y a encore un paradoxe là, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire Bazzi à Paris... servait de cantine pour tous les autres grands peintres, à la limite plus connus que lui, ou qui ont eu, par contre, le bonheur de peindre toute leur vie, alors que Bazzi a été stoppé très jeune. Et en fait, c'est Papa Bazzi qui alimentait ces cantines-là. Papa Bazzi qui était contre le fait que son fils fasse de la peinture et soit dans ces milieux un peu de poète, peintre, écrivain parisien de l'époque. Donc voilà, l'histoire est pleine de paradoxes comme cela.
Donc c'est la famille qui fait construire ce mausolée. Est-ce qu'on appelle ça un mausolée, Jean-Marie ?
On peut appeler ça... Bon, en fait, c'est un caveau. Et d'accord. C'est un très grand caveau, bon, qui peut contenir plus d'une vingtaine de sépultures. C'est un des deux plus grands caveaux de notre cimetière, mais c'était le caveau de la famille. Et c'est ensuite sur ce caveau qu'a été érigé en plusieurs temps les statues, celle de Frédéric Bazzi et celle de la jeune nymphe qui lui tend une palme, et tend la palme au héros de la patrie.
Et donc les matériaux, la statue là est en pierre.
La statue est en pierre, la nymphe, c'est un bronze, Et la statue de Bazzi, alors ça c'est encore quelque chose de sympa à raconter pour Montpellier, c'est Auguste Baussan qui a fait le buste de Bazzi qui est en haut de ce monument. Auguste Baussan avait été le professeur de Bazzi aux Beaux-Arts de Montpellier. Donc voilà, il a fait très volontiers ce buste et il l'a placé là. Mais bon, à l'époque, ça commençait à être un peu du commerce. Et donc, voilà comment on va vivre ce grand professeur de sculpture de Montpellier, qui était reconnu et un peu le sculpteur académique de Montpellier de l'époque, à qui on demandait beaucoup de choses. Alors un jour, on lui a demandé de faire une statue dans le square qui allait s'appeler Planchon, la statue de Jules-Émile Planchon. Alors bon, il a fait le buste de Planchon, et dans la même idée que la jeune nymphe qui tend une palme à Bazzi au cimetière protestant, il a fait un vigneron qui tend une grappe à ce fameux Jules-Émile Planchon en reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour la viticulture. Et bon, pour la tête de ce jeune vigneron, voilà, il ne s'est pas trop posé de problème. Il a repris exactement la tête de Frédéric Bazzi.
Planchon,
donc voilà, il a réussi à en vivre deux fois. Ouais. Et ce n'est pas fini. parce que ensuite, il y a eu l'érection de l'église Saint-Roch. Et bon, il fallait une statue de Saint-Roch. Alors, bon, Baussan s'est dit, je vais lui remettre la tête de Bazzi. Mais voilà, Saint-Roch, c'est une église catholique. Bazzi, symbole protestant, il y a un problème. Donc Baussan a contacté la famille en demandant si ça ne les gênait pas, etc. Et la famille de Bazzi a répondu tout à fait favorablement, mais à la condition que la statue soit décente. C'est-à-dire que tous les Saint-Roch qu'on voit partout, il relève un peu sa jupette pour montrer sa plaie à l'aine, puisqu'il avait la fameuse maladie contre laquelle il se battait et où il s'occupait des malades également. Alors la statue va être décente en ce sens que c'est la seule statue où Saint-Roch ne remonte pas sa jupette et la statue est visible actuellement dans l'église Saint-Roch.
Planchon d'ailleurs était protestant aussi.
Aussi.
Parce que moi j'ai parlé de Suzanne Babu Planchon,
oui,
qui est de la même famille, voilà. Bien sûr, qui est une grande image aussi.
Et Planchon, qui se trouve également au cimetière
protestant. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. C'était une évidence, elle était dans quel état, ce tombeau? Il était dans quel état pour qu'on se dise, on ne peut pas le laisser comme ça?
Alors, il n'est pas en ruine du tout.
Oui, voilà, c'est ça.
Il n'est pas en ruine du tout, mais il est très sale. Toutes les plaques avec les noms ont sauté et sont plus ou moins fendues. Les grilles en fonte, qui sont aussi un très bel ouvrage, il n'y a pas que la statuaire, les grilles en fonte sont d'une grande valeur, sont assez abîmées aussi. La statue elle-même, le buste de Basile, est très grêlé. Donc là, il y a besoin d'une réfection, d'une restauration par un artisan, un meilleur ouvrier de France. Et le bronze également, qui est lui, non pas de Baussan, mais de Chaput, un autre professeur des Beaux-Arts de Montpellier, a également besoin d'une réfection complète. Il a des fentes et il a perdu complètement sa patine. Donc il faut démonter l'ensemble, que ce soit repris en atelier par ces artisans spécialisés, et ensuite replacer le tout. Donc c'est quelque chose qui coûte assez cher. Alors, le tombeau n'appartient pas à l'Église. C'est un tombeau qui appartient à la famille Basile. Mais la famille Basile, il n'y a pratiquement plus de Basile. Il y a quelques descendants très éloignés et qui n'ont pas la capacité de s'occuper de ce tombeau. Donc, le cimetière a décidé de créer une association 1901 avec des personnes spécialistes qui s'en occupent. On a par exemple Vincent Hatt qui dirige cette association, qui est un amateur d'art très cultivé et qui a commencé cette organisation de réception de dons pour aider la famille. La famille participera un peu, mais très peu, pour restaurer ce très beau monument du cimetière. Comme cela, ça ne revient pas à l'Église, ce n'est pas un frais pour l'Église.
Alors, le montant des travaux, on va parler d'argent un peu, avec les quelques minutes qui nous restent, 5 grosses minutes. Le montant, 14 000 euros qu'il faut...
Voilà, 14 000 euros, évaluation de l'an passé, hein, parce que le dossier a été long à monter. Il a été long parce que nous faisons appel à la Fondation du patrimoine. qui est un organisme vraiment qui a à cœur de faire ce genre de rénovation. Et la Fondation du patrimoine, la délégation actuelle sur le département et la région, est très sensible aux cimetières, temples et restes de cette histoire protestante dans la région, parce que c'est quand même quelque chose qui était au cœur de la région pendant un très long temps. Donc ils ont accepté volontiers de nous inscrire dans leur collecte nationale. Et donc c'est celle-ci qui démarre actuellement, et c'est un peu pour cela que je suis venu ici.
Je voulais m'excuser parce que j'ai dit qu'il était mort en 14. Non, bien sûr, il est mort à Beaune-la-Rolande en 70. Voilà, je me suis un peu gouré de guerre.
Oui, c'est là.
Voilà, excusez-moi, hein, voilà, mais pour nos auditeurs qui écoutent toute l'émission, que voilà. Quant à Desnos, je ne suis pas sûre si c'est la première ou la deuxième, je vous laisse vérifier. Tout ce que je sais, c'est que c'était en début de la guerre. Voilà, mais bien sûr, il est mort le 28 novembre 1870 à 28 ans à Beaume-la-Rolande.
Oui, c'était le tout début de la guerre, il n'a pratiquement pas fait la guerre.
Tout au début. Oui. Donc, pour aider, maintenant on va demander des sous, Jean-Marie. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a un site internet. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ça pour que nos auditeurs puissent aider ce projet?
Alors, le plus simple, c'est de joindre le site internet de la Fondation du patrimoine. Donc, c'est fondation... Alors, je ne sais plus si c'est un tiret ou un point. fondation-patrimoine.org. fondation-patrimoine.org. Et là, en demandant tombeau de Bazy Montpellier, on tombe directement sur le site qui lui est consacré, avec un petit peu d'histoire, des photos et la façon de pouvoir participer, de faire un don pour restauration. Alors bon, avec la Fondation du patrimoine, comme dans la plupart des fondations, chaque don qui est fait bénéficie de 66% de dégrèvement d'impôts. Donc une personne qui va donner 30 euros pour cette restauration, en fait, ça ne lui coûtera que 10 euros. Voilà, donc c'est une façon intéressante d'intéresser le plus grand nombre à cette restauration. Alors cet argent donc qu'on va collecter servira bien entendu pour la restauration de Basile, mais on espère qu'il y aura un petit supplément. Et parce qu'il y a 3 ans, on a engagé, et c'est pour ça qu'on a fait appel à Vincent Hatt pour s'occuper de cette chose-là, on a engagé une étude d'un chemin patrimonial dans le cimetière, avec un programme de réfection de certaines tombes historiques importantes, et pouvoir proposer aux personnes qui visitent un itinéraire avec des tombes rafraîchies, restaurées, des panneaux explicatifs sur la vie des personnes qui sont enterrées là. Et la première tombe qui avait été restaurée à ce titre-là, c'était il y a 3 ans maintenant, la tombe du maire de Montpellier, Jules Pagési, fameux Haussmann de Montpellier. Donc là, c'est pareil, c'est une tombe qui n'appartenait pas à l'Église, qui n'appartenait plus à la famille puisqu'il n'y avait plus de famille, donc ce qu'on appelle une tombe en déshérence. Nous nous sommes rapprochés de la ville de Montpellier en leur disant, ben voilà, vous avez quand même un grand maire qui est là, la tombe est en déshérence, elle n'est pas entretenue, etc. Est-ce qu'il n'y a pas occasion de faire quelque chose? Et la ville a tout à fait accepté de faire cette restauration de tombe à ses frais complets à elle. Voilà, donc on a maintenant cette première tombe qui est rafraîchie avec panneau explicatif, et on veut essayer de continuer plus loin. Donc vous parliez tout à l'heure de Jeanne Galzy, l'écrivain. Moi j'évoquais le Major Flandre, un grand résistant montpelliérain très connu. Et voilà, on va essayer de restaurer toutes ces tombes petit à petit, avec le petit argent qui nous restera.
Mais c'est vrai que c'est important de faire ce genre de chemin, c'est formidable à faire.
Voilà,
je l'ai fait au cimetière du Montparnasse, où j'ai mis les petits cailloux sur la tombe de Sartre à côté, je crois qu'il est là-bas, enfin bref. Et puis le petit de Montmartre aussi, qui était un très beau cimetière. Mais c'est vrai que c'est très bien pour justement inciter les gens à aller aussi dans les cimetières. Voilà. Jean-Marie, merci d'être venu ce matin pour nous parler de ce beau projet. Vous nous direz un petit peu les évolutions?
Tout à fait.
Nous donner des nouvelles des travaux et de l'avancée des travaux de temps en temps. Et puis, mes amitiés au Café Margel.
Voilà. Merci beaucoup. Et donc, avant de partir, fondation-patrimoine.org.
Et on se quitte sur fondation-patrimoine.org, et on mettra de toute façon cette adresse sur le podcast. Merci beaucoup, Jean-Marie Lebrun, et à très bientôt pour d'autres infos sur ce beau cimetière. Si on peut dire qu'un cimetière est beau. Merci beaucoup. Au revoir. À demain pour un autre matinale.